Chapitre 40. Rainy et moi sommes assises à la table de réunion lorsque Quincy et son équipe reviennent enfin. Il est super tard, 2-3 heures du matin. C'est clair que je devrais être au lit, mais Rainy ne dit rien, alors moi non plus. Nous veillons. J'imagine que c'est un peu comme d'autres parents et enfants qui ont vu un proche partir à la guerre. Luca dort sous la table. C'est le seul d'entre nous qui soit capable de se détendre tout en restant sur le qui-vive. Des bruits de pas résonnent dans le couloir et hop, sa tête se relève, une oreille pivote. Mon chien policier est prêt à l'action. Alors Quincy apparaît et sur le coup nous restons sans voix. Je ne vois que du sang, sur son visage, son t-shirt, son bras. Mon père. Et pour la première fois je comprends ce qui se passe vraiment. Ce que mon frère pourrait me coûter.
Est-ce que tu es...
commence Rainy qui s'est déjà levée. Et moi? Est-ce que c'est lui qui t'a fait ça? Telly t'a blessé?
Je vais bien, s'empresse de répondre Quincy. Juste des égratignures, un ricochet.
Il me regarde.
Une balle tirée par quelqu'un d'autre, Charla, pas par ton frère. En fait, Telly vient sans doute de me sauver la vie.
Et où est-il? Demande Rainy.
Il a filé juste avant l'arrivée des forces spéciales. Avec mes... blessures, je n'étais pas en état de le retenir.
Je suis incapable de me lever, de bouger les jambes, de sentir mon corps. C'est Rainy qui s'approche de Quincy. Indifférente au sang et à la sueur, elle l'enlace. Luca est là aussi, il le flaire à tout va, une plainte sourde dans la gorge. Quincy grimace mais rend son étreinte à Rainy. Il me regarde par-dessus son épaule et j'ai envie de penser qu'il sait pourquoi je reste paralysée. Toutes ces choses qu'une fois plus je ne sais pas comment exprimer. Ce sont mes parents, me dis-je. Ma famille. Je me lève. Je rejoins Quincy, Rainy, mon chien. Et je les prends tous dans mes bras comme je peux. Pour autant, je ne dis rien. Mais c'est inutile. Parce que Rainy et Quincy comprennent depuis toujours. Quincy s'absente pour faire un brin de toilette. Le shérif Atkins est parti discuter avec son sergent. Le pisteur nous a retrouvés dans la salle de réunion. Il descend des litres d'eau et refuse de croiser notre regard. Ses mains tremblent violemment. Les derniers événements chez les Duval l'ont secoué, mais il fait de son mieux pour ne pas le montrer. J'ai de la peine pour lui. Luca s'approche, s'appuie contre sa jambe. Au bout d'un moment, le pisteur se penche pour lui gratouiller les oreilles. Je suis fière de mon chien. Il est plus doué que moi pour les relations humaines. Le shérif Atkins lève à peine le nez lorsqu'elle entre dans la pièce. Elle a dans les mains une liasse de papier qu'elle feuillette rapidement. Le sergent Roy et mon père la suivent en file indienne. Quincy a troqué son t-shirt ensanglanté pour une chemise de shérif qu'ils avaient en réserve. Le voir en uniforme marron nous fait sourire, Rainy et moi, mais nous baissons vite les yeux. Shelley s'interrompt le temps de nous adresser un petit salut. Quincy dépose un baiser sur la joue de Rainy, flatte la tête de Luca et bien sûr me presse gentiment l'épaule.
« Tu tiens le choc ?» me demande-t-il d'une voix douce.
« Tu as vraiment vu mon frère ?»«
Oui. »
« Tu lui as tiré dessus ?»«
En fait, c'est lui qui a tiré sur la personne qui me visait. Je dois dire que je lui sais gré de son intervention. »«
Je le savais, » dis-je farouchement. « Il est gentil, je vous l'avais dit. C'est mon Telly, je le savais, je le savais, je le savais. » Quincy me presse une nouvelle fois l'épaule.
Ne t'emballe pas, Charla. La nuit va être longue et nous avons encore beaucoup de découvertes devant nous.
À ce propos,
dit Shelley avec entrain.
Comme nous le soupçonnions, lorsque la jeune Irène, alias Sandra, a fui son père et son entreprise criminelle, elle a emporté un moyen de pression avec elle. Au moment où nous avons été grossièrement interrompus, je venais de trouver une série de chiffres scotchés sous l'étagère où elle rangeait ses livres de cuisine. Je les ai rentrés dans la base de données de la brigade financière et figurez-vous qu'un résultat est sorti. Vous vous rappelez l'affaire des Panama Papers qui a révélé l'existence d'une multitude de comptes occultes appartenant à tout un éventail d'individus allant du richissime homme d'affaires au politicien haut placé? Eh bien, vous pouvez ajouter David Gemetti, le père de Sandra, à la liste. Le numéro en question est celui de son petit bas de laine à l'étranger. Je me mettrai en rapport avec les services fiscaux pour en savoir davantage, mais les informations parcellaires que je peux tirer des documents rendus publics indiquent que le compte est dormant depuis des années, ni versement ni retrait, ce qui témoigne peut-être de la dissuasion qu'Irène exerçait sur son père. Tant qu'il lui fichait la paix, elle ne touchait pas à l'argent.
« Cela représente quelle somme ?»
demande Quincy.
« Au début de cette année, 20 millions de dollars. »
Le silence se fait dans la pièce. Même moi, j'en reviens pas. 20 millions de dollars. Ça fait un paquet d'argent. J'arrive même pas à me le représenter. Un max de fric. De quoi voir venir.
Le pisteur est le premier à réagir. Une petite minute. Son père est mort, n'est-ce pas? Donc Sandra Duval aurait dû hériter de toute façon. Pourquoi garder ce compte en banque secret? Si Sandra s'était présentée comme la fille et unique héritière de David, alors oui, elle aurait touché l'argent, répond Shelley. Mais cela supposait d'admettre qu'elle était Irène Gemetti et de répondre de l'accusation de meurtre portée contre elle il y a 30 ans. Reprendre son identité n'était donc pas si facile qu'il y paraît. Avec 20 millions de dollars, on peut se payer un sacré bon avocat de la défense, proteste Cal. Si elle voulait l'argent, cette histoire de meurtre commis alors qu'elle était mineure et peut-être même en situation de légitime défense face à un maquereau notoire aurait pu se régler assez facilement, il me semble.
Je ne pense pas qu'elle voulait l'argent,
affirme posément Quincy.
Si tel avait été le cas, elle aurait déjà pioché dans le compte. Mais Sandra avait choisi de tirer un trait sur Irène Gemetti. Je ne crois pas que la mort de son père y ait changé grand-chose.
Autrement dit, 20 millions de dollars dorment sur un compte en attendant preneur. Soit autant de raisons de la tuer, dit Shelley en secouant la tête.
Qui pouvait être au courant? Demande Rainey.
Avec la divulgation de ces documents confidentiels, quiconque prenait le temps de s'y retrouver dans ce maquis, explique Shelley. Mais je ne vous cache pas que ça ne se lit pas comme un roman. Le plus probable est donc qu'il s'agisse d'un proche de David Michael Martin. Ce qui nous ramène à Douglas Peirce, nouveau PDG de GMB Enterprises, continua-t-elle en brandissant une nouvelle feuille. En tant qu'associé de longue date de Martin et responsable des finances de la société, il paraît logique qu'il ait eu connaissance de l'existence du compte, mais aussi de la raison pour laquelle Martin n'y touchait pas. Il a aussi dû être le premier à tirer les conséquences de la disparition du patron. Le compte était maintenant à qui voulait se donner la peine de le prendre.
« Je comprends pas, » dis-je. C'est sorti tout seul. Je me retrouve bien malgré moi sous le regard de plusieurs adultes. Si ce Douglas est au courant pour le compte en banque, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas tout simplement l'argent? Pourquoi revenir vers Sandra?
Peut-être parce qu'il ne peut pas, dit Rainey en lançant un regard à Quincy. Ce n'est pas le tout de connaître l'existence du compte. Encore faut-il montrer patte blanche pour accéder au fond. Sandra aurait pu le faire si elle s'était fait connaître comme la seule famille et légitime héritière de Martin. En revanche, un associé... Douglas Peirce savait, mais ce n'était pas pour autant qu'il pouvait faire main basse sur l'argent.
Un code secret. Marmonne Cal. Il s'écarte de la table, se relève déjà, arpente la pièce. Les pisteurs ne sont peut-être pas à l'aise dans les espaces clos. Et comme il s'aperçoit que tous les yeux sont sur lui...
La plupart des comptes en banque sont associés à un code, n'est-ce pas? Si je veux faire un retrait sur mon livret d'épargne, je dois taper mon code. Ça ne doit pas être bien différent dans les banques à l'étranger.
Non, confirme Quincy qui penche la tête sur le côté, prend son air de penseur.
Peut-être que Sandra détenait cette information dont Douglas Peirce avait impérativement besoin. La clé pour débloquer 20 millions de dollars.
Rainey enchaîne. Donc Douglas lui a envoyé son fils Richie pour récupérer le code PIN, le mot de passe ou je ne sais quoi.
Ça fait une heure que Roy essaie de joindre Douglas Peirce, officiellement pour l'informer de la mort de son fils, mais M. Peirce ne répond à aucun de ses numéros,
indique Shelley.
De sorte que je me demande s'il ne serait pas le tireur numéro 2 qui se promène dans mon comté.
Celui qui a un grain de beauté au poignet? M'étonnais-je. Celui des images de la station-service?
Rainey n'est pas d'accord. Pourquoi Douglas Peirce aurait-il tué son propre fils? Surtout s'il avait agi sur son ordre.
Objection retenue, concède Shelley.
Pour info, dit-elle en regardant Quincy. Le légiste a confirmé que Richie Peirce avait des résidus de poudre sur les mains. On peut donc penser que c'est bien lui qui a tué le couple Duval. Reste à savoir ce qui s'est passé ensuite.
Telly m'a dit qu'ils étaient morts quand il est rentré chez lui ce matin,
raconte Quincy à l'ensemble du groupe.
Sur son lit se trouvait un message disant que c'était lui l'assassin, et un téléphone jetable. Auparavant, Telly avait reçu des photos de toi, Charla, accompagnées de menaces de mort te concernant. Des instructions devaient suivre.
Telly n'avait pas encore décidé quelle conduite adopter quand il a retrouvé les cadavres de Frank et Sandra.
Je hoche la tête, mais cela ne dissipe pas la confusion qui règne dans mon esprit. Je caresse Luca en quête de réconfort, mais c'est peine perdue. Quincy continue.
Il me paraît à peu près certain que Richie a commis le meurtre des Duval. Pour le confirmer, il nous faudrait l'arme et une analyse balistique, mais je pense que Rainey a vu juste. Doug Peirce connaît l'existence de ces 20 millions de dollars, mais il n'a pas les moyens d'accéder au compte. Il charge donc son fils d'extorquer cette information. Richie entre dans la maison au petit matin. Il descend tout de suite Frank Duval, qui n'a même pas le temps de se redresser dans son lit. Le message envoyé à Sandra est clair. Parlez ou ce sera votre tour.
Donc elle parle. Souffle Shelley. Elle donne le mot de passe. Et ensuite il la descend alors qu'elle tente de fuir.
Ça m'étonnerait,
dit Quincy.
Je pense que Sandra a dû refuser de lâcher le morceau. Ce qui expliquerait que des gens en soient encore à courir aux quatre coins de la ville et à mitrailler la maison des Duval. En tout cas, notre présence était indésirable pour une certaine personne. Peut-être la même personne qui s'est retournée contre Richie, qui l'a tué et qui cherche à son tour le mot de passe. Voir la police fouiller le domicile des Duval ne devait pas lui plaire. Nous risquions de trouver l'information avant lui.
Mais pourquoi, Telly ? J'ai pas pu m'empêcher de l'interrompre. Pourquoi lui coller tout ça sur le dos ? Quincy me répond avec douceur.
Parce que ceux ou ces individus ne peuvent pas se permettre que la police s'intéresse au passé de Sandra. Ils ne veulent pas que nous nous interrogions sur les liens qui existaient entre elle et David Michael Martin ou sur les méthodes de gestion de ce dernier. Or, étant donné ses antécédents, Telly est le bouc émissaire idéal. Il l'oblige à endosser la culpabilité des meurtres.
Mais il a rien fait.
Sauf qu'il veut te protéger. Il t'aime, chérie. Tu avais raison sur ce point. Ton grand frère veut toujours être un rempart pour toi.
Cela m'achève. Je baisse les yeux, contemple le crâne noir de Luca et cligne rapidement des yeux. Rainey, assise à côté de moi, pose un bras sur mes épaules. Je voudrais m'écarter, être plus solide, plus forte, mais c'est pas le cas. Je pense surtout à mon frère, qui s'efforce toujours de me protéger. Moi, sa petite sœur, qui ne lui ai même pas adressé la parole depuis des années. Je suis pas triste. J'ai honte.
C'est là qu'il me reste un point d'interrogation.
Continue Quincy.
D'après Telly, après avoir trouvé les Duval et le message, il a chargé le matériel de camping dans la voiture et il est parti. Il savait qu'il était dans le pétrin. Pour protéger Charla, il fallait qu'il ait l'air d'un assassin en fuite. Mais tant qu'à avoir la police aux trousses, il a voulu semer des indices, notamment la photo de Martine prise chez les Duval.
Il a rencontré le père de Sandra ? Demande Rainey, le bras toujours sur mes épaules.
Non. D'après Telly, c'est Sandra qui a eu une entrevue avec lui. Peut-être qu'elle avait finalement décidé de faire amende honorable. Telly ne savait pas trop. Mais après son départ de la maison des Duval, il a reçu un appel sur le téléphone jetable. On lui donnait rendez-vous à la station EZ Gaz. Là-bas, il a retrouvé quelqu'un qui lui a mis un 9 mm dans la main. « C'est toi l'assassin », a dit l'homme. La même phrase que dans le message chez les Duval. Et il est parti. À l'intérieur de la station-service, Telly a trouvé Richie mort, ainsi que la caissière. Désemparé, il est entré dans le champ de la caméra et il a tiré, l'idée étant toujours de se faire passer pour le coupable. Il le fallait s'il voulait protéger Charla.
Rainey s'écarte, le front plissé. Donc l'ancien bras droit de David aurait envoyé son fils Richie récupérer le mot de passe auprès de Sandra. Richie aurait tué Sandra et Frank. Et ensuite, lui-même se serait fait tuer.
« Voilà, »
dit Quincy. « J'aime pas cette histoire, » dis-je simplement.
« Eh bien, moi, je ne la suis pas jusqu'au bout, »
dit Shelley. Elle se masse la nuque.
« On dirait qu'il nous manque un protagoniste. Un rival de Doug Peirce, peut-être. »« Hypothèse logique, »
approuve Quincy.
« Et cet individu mystère aurait liquidé la concurrence, mais lui aussi a voulu faire porter le chapeau à Telly. »
Donc il devait savoir que cela faisait partie du plan de Richie, constate Shelley.
Ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'un rival extérieur, mais au contraire d'un ennemi intérieur, qui connaissait le plan d'origine,
confirme Quincy.
Dans une organisation comme GMB Enterprises, ce genre de lutte intestine n'a rien de bien surprenant.
Mais il n'a toujours pas le mot de passe, dit Rainey. C'est pour ça qu'il est retourné chez les Duval ce soir. Il est tombé sur vous et il a ouvert le feu.
Pourquoi se retenir pour 20 millions de dollars ?
Demande Quincy en touchant avec embarras les staphylades sur sa tempe. Je ferme les yeux. J'ai mal à la tête. Je voudrais rentrer chez moi et dormir toute ma vie. Mais je sais qu'à mon réveil, rien ne sera arrangé. En fait, si nous ne trouvons pas un moyen d'aider Telly, d'identifier le mystérieux rival, la situation pourrait encore empirer grandement.
Telly m'a décrit l'assassin de la station-service comme un vieil homme,
dit Quincy.
Mais il a détourné les yeux en disant cela. Il m'a aussi affirmé qu'il n'était jamais venu dans cette station auparavant. Mais là encore, j'ai eu l'impression qu'il mentait.
Pour couvrir quelqu'un ?
S'interroge Shelley.
Henry Duval, vous pensez ? Mais pourquoi ?
Quincy regarde Shelley.
Henry a admis que c'était lui que son grand-père avait sollicité en premier. Sur le fait qu'il n'a pas donné suite, nous n'avons que sa parole. Et s'il avait rencontré le vieux ? Et si son grand-père lui avait parlé de ses 20 millions de dollars ?
Tu penses que Henry aurait tué ses propres parents ? Demande Rainey.
Non, je crois que c'est Richie qui a tué les Duval. Mais cela donnait à Henry deux bonnes raisons de se lancer à ses trousses. Venger ses parents et s'emparer lui-même des 20 millions. Henry pouvait aussi vouloir tendre un piège à Telly. Manifestement, ça n'a pas été le coup de foudre entre ces deux-là. Puisque le monde de Henry était en train de s'effondrer, pourquoi ne pas faire aussi payer ce faux frère ? Je suis sûre qu'il y verrait une certaine justice. Mais pourquoi Telly ne l'aurait-il pas dénoncé ?
Demande Shelley.
Vu leurs sentiments réciproques, Telly ne pourrait-il pas de son côté vouloir balancer Henry ? Sauf s'il a l'intention de lui régler son compte lui-même.
Encore une personne à tuer, me rappelais-je d'un seul coup. Quincy me regarde, hoche lentement la tête.
Exactement.
Une nouvelle fois, les adultes se lèvent et quittent la pièce.